Le son des Antilles. 89.3 FM. Radio Sud-Est.
Retrouvez tous les samedis l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
Bonjour, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. En tout cas, je remercie toute l'équipe de Radio Sud-Est et notamment Dominique qui nous accompagne et aussi Carole qui est là avec nous. Donc alors, notre invité du jour, il s'agit d'Alain Alfred, il est adjoint au maire de Fort-de-France, secrétaire général du PPM, en charge à la ville de Fort-de-France, du développement local, de l'attractivité économique, sociale et solidaire.
Bonjour, bonjour aux auditeurs de Radio Sud-Est. Bonjour Mathieu.
Et je profite bonjour, pour dire bonjour à Lauriane hein, qui est avec nous. Et en tout cas, nous avons la chance de l'avoir parmi nous et qui prend au pied levé le début de l'émission. Alors Alain, on va commencer hein, avant de passer la parole à Lauriane tout à l'heure. Les députés cette semaine à l'Assemblée nationale ont adopté une loi reconnaissant la responsabilité de l'État dans le scandale du chlordécone.
Oui, il était grand temps. Il était grand temps que les députés prennent cette décision. Alors, malheureusement, ça s'est passé de façon un peu bizarre, avec l'abstention, des membres du parti du président, alors même que le président avait lui-même reconnu une partie de responsabilité de l'État.
Oui,
et c'est un peu surprenant. En fait, on sent que c'est ouai ou pas ouai. Bon, maintenant, c'est acquis. Il reste à passer devant le Sénat. Rappelons quand même qu'il ne suffit pas de reconnaître la responsabilité. Il s'agit aussi d'adopter, et là Serge Tchimi avait fait des propositions très claires quant à la résolution de ces problèmes. Parce que dans les faits, le problème, il existe. Le problème, il existe, il est reconnu, scientifiquement reconnu, il est là, sur la table. Et donc, quand on est responsable, d'abord responsable parce que c'était la responsabilité de l'État que d'autoriser ou pas un certain nombre d'utilisations dans les cultures. Et aussi parce que la Martinique, la Guadeloupe, c'est la France. Trop souvent, l'État français a tendance à faire ce qu'il arrange quand ça l'arrange. Quand il y a un problème en Martinique et qui est de l'ordre de la responsabilité régalienne de l'État, la santé publique, c'est le rôle de l'État que de veiller à ce que les choses se passent au mieux. Et même, je dirais, le développement économique. Puisque, c'est au regard des besoins de production que les agriculteurs ont eu à utiliser de ces pesticides. Et donc, la responsabilité de l'État est engagée à double titre. D'abord parce que l'État a autorisé, au-delà de ce qui était possible, parce que l'État savait mieux que quiconque que les choses n'étaient pas acceptable. Ensuite, la responsabilité de l'État est engagée parce que nous sommes un territoire qui n'a pas encore demandé l'indépendance et donc l'État est en devoir, a un devoir absolu d'accompagner les populations. Donc ça, je crois que le député socialiste qui a porté avec d'autres
Eli Califère
qui a porté cette proposition de loi
qui a été co-signée par le député Johnny Ajar
bien sûr
et qui a d'ailleurs des interventions à l'Assemblée à ce sujet
et
qui
matière,
était très actif sur le
sur ce sur, dossier
sur ce
donc
dossier, ouais.
Effectivement d'ailleurs nous avons tout le temps été très actifs et Johnny est parmi les premiers il a eu raison de mettre l'État français au niveau du Parlement face à ses responsabilités et donc il reste encore le Sénat pour voir. Mais derrière, il reste aussi à définir la méthode. Donc il y a un état des lieux qui existe, il faut qu'on soit d'accord dessus, il faut aussi en sortir. Et en sortir, Serge Tchimi a fait des propositions, nous attendons de voir comment l'État accepte et rentre dedans.
D'ailleurs, Serge Tchimi a fait plusieurs propositions, mais il avait notamment demandé de mettre en place une loi programme Et d'ailleurs, la collectivité territoriale de Martinique avait pris une délibération en ce sens pour demander à l'État de mettre en place une loi programme pour permettre de mettre des moyens, notamment des moyens financiers pour, par exemple, la dépollution des terres, entre autres.
Tout à fait, parce qu'en fait, quand on est face à une situation comme celle-là, il y a nécessairement à engager les choses à moyen et à court terme. À court terme d'abord, moyen terme et à long terme, parce qu'en fait, on le sait bien, il y a une rémanence de la présence et de la nocivité de la molécule. Et donc, ça ne peut être qu'une loi programme. Une loi programme qui sache tenir compte aujourd'hui de ce qui est nécessaire, demain de ce qui devra venir accompagner, et après-demain de ce qui viendra à parfaire. Donc, Serge Hachimi a été très clairvoyant sur la méthode. Il y a à adopter la bonne méthode et cela consiste certainement à faire une programmation pluriannuelle de sorte à ce que l'on sache discuter des choses. Alors, on a eu les plans des cornes 1, 2, 3, 4, on ira comme ça. Ce n'est pas ça dont nous avons besoin. À chaque fois, on nous annonce une enveloppe. Non, il y a une globalité de la problématique qu'il faut mettre sur la table. Et ça se fait dans le cadre d'une loi programme.
Effectivement. Et il s'agit, même si certains députés, notamment, on a entendu Johnny, mais Serge Letchimi aussi, dans son rapport, l'a dit, effectivement, il y a la responsabilité de l'État, mais il y a aussi des privés.
Bien sûr. Bien sûr. Ce problème est pluridimensionnel. Il est de la responsabilité de l'État qui a autorisé. Mais il est aussi de la responsabilité de certains nombres d'acteurs qui ont contrevenu, d'ailleurs parfois même au-delà de ce que l'État a lui-même autorisé, puisqu'on a bien vu des pratiques, des gens qui, au moment même où l'État disait c'est formellement interdit, eh bien ils ont continué à écouler, allant même jusqu'à faire l'acquisition des droits sur la molécule et de la production. Donc tout cela doit être traité parce que ce ne sont pas que les sols qui sont aujourd'hui pollués, ce sont les corps et ce sont aussi les esprits. Et donc on ne résout pas un problème en restant en surface. Trop souvent, d'ailleurs, on a tendance à croire que dès lors qu'on a donné une apparence aux choses, allez, on vous a entendu, mais oui, on est d'accord, etc., ça suffira. Non, il faut aller au fond des choses, parce que ce territoire est un territoire qui connaît ce que c'est que la résilience. Mais la résilience, ce n'est certainement pas cacher des parties de la problématique. Passer outre. On ne peut pas pratiquer la résilience si on n'a pas conscience des problématiques qui se posent. Et la problématique, elle est pluridimensionnelle. Elle est économique, elle est de l'ordre de l'empoisonnement des sols. Et donc, il y a un programme à mettre pour dépolluer les sols. Il y a aussi à s'occuper de la santé des utilisateurs, mais aussi des consommateurs. Et donc, nous donner des garanties. Alors, j'entends que le problème serait quasi généralisé. Ben, il faut que l'on ait une bonne connaissance et une bonne prise en main de cette difficulté que constitue l'empoisonnement par le chlordécone.
Lauriane.
Alain-Alfred, oui. Le Sénat a adopté hier le projet de loi visant à inscrire à l'article 34 de la Constitution que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse, plus communément appelé le droit à l'avortement. Oui. On peut dire enfin, pour les femmes aujourd'hui qui ont cette liberté inscrite dans la Constitution ?
Alors,
c'était un long débat. Il y a certaines personnes qui disaient qu'il n'y avait pas de nécessité d'inscrire Constitution. D'ailleurs, la France est le premier pays du monde à inscrire dans sa Constitution
le droit à l'avortement.
Alors, j'ai envie de dire que l'abolition de la peine de mort a eu lieu en 1981, très précisément le 9 octobre. Et puis, l'abolition de la peine de mort a été inscrite dans la Constitution française quelques années plus tard, donc le 23 février 2007, et personne ne s'en étonne. C'est vrai qu'à l'époque de l'abolition de la peine de mort, on entendait encore beaucoup d'atermoiements, de discussions autour de « faut-il, ne faut-il pas ?» C'est donc qu'il y avait faculté à revenir sur cette... en fonction des majorités, en fonction des dirigeants que le pays se donne. On aurait pu revenir sur cela. Ce n'est pas que le fait de rendre constitutionnel, rendre impossible le retour, rendre absolument impossible, mais ça rend extrêmement difficile. Et aujourd'hui, la peine de mort, on n'en parle plus. C'est inscrit dans la Constitution. Alors, est-ce à croire que dans l'esprit de ceux qui remettent en cause cette inscription, alors même qu'ils observent que dans le monde, il y a des retours en arrière, des manières de concevoir que le corps de la femme, eh bien, ça appartient à, ils vont vous dire, à la société, pour ne pas vous dire à l'homme, au mari, au père. Parce qu'il y a des sociétés où le corps de la femme appartient à ces personnes-là, à la société, au mari, à l'homme. Nous devons apprendre à considérer nos semblables, les femmes, comme étant nos semblables. Elles le sont, objectivement. Et donc, on imagine mal que l'on puisse considérer que les hommes, on puisse faire ce que l'on veut de leur corps. Et donc, le problème existe. Dans le monde, il y a des retours en arrière, notamment dans l'une des plus grandes démocraties, aux États-Unis. L'une des plus grandes démocraties. Alors, il y a des pays où, bon, les choses ne sont jamais rentrées dans le sens de l'histoire, mais là, il me semble naturel que l'on procède ainsi. Naturel que cet élément soit mis dans la Constitution parce que justement il y a un risque, parce que justement c'est un droit qui est imprescriptible. C'est le droit qui est lié au principe même de la Constitution française et de la République française, égalité et liberté. Égalité, les femmes doivent être considérées comme égales à tout autre individu et donc avoir la liberté d'user de leur corps et de refuser l'enfantement. Ce d'autant qu'il y a des circonstances où c'est parfois très malheureux. Et alors on me dira, mais non, mais il faut passer par un tribunal, par un juge, par la société pour décider si on fait ou si on ne fait pas. Non, soyons très clairs, les choses doivent être simplement vues par la personne elle-même concernée. Donc ça me semble fondamental. Je ne saisis pas les arguments que l'on nous oppose en la matière. C'est quelque chose d'absolument naturel. Qu'ils aillent à nous dire que l'abolition de la peine de mort ne devrait pas être aussi dans la Constitution. Et qu'ils aillent à nous dire que beaucoup d'autres articles qui viennent rendre incontournables et fondamentaux un certain nombre de droits ne devraient pas être dans la Constitution. Ce serait réfuter ce qui fait la République. Ce serait réfuter ce qui fait le vivre ensemble et faire en sorte que, véritablement, on soit dans l'incapacité de vivre en paix.
En tout cas, Alain, parlons un peu de l'actualité nationale, mais aussi locale. Oui. On entend parler de plus en plus au niveau national de pouvoir autonome, d'autonomie, notamment entre autres pour la Corse, mais pour différents territoires. Et d'ailleurs, beaucoup de territoires le demandent de plus en plus, hein, et notamment nos territoires dits des pays d'outre-mer, hein, entre autres, parce qu'il y a eu, depuis l'appel de Fort-de-France, il y a une démarche qui a été entreprise avec chacun des territoires, chacun avance à son pas. On voit la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, etc. Chacun a des revendications propres à son territoire. Ici, en Martinique, le PPM, en tout cas, revendique une autonomie. On sait que cela fait avant des années que le PPM revendique l'autonomie. On voit le président de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, demander un pouvoir autonome sur place pour nous. Que peux-tu nous dire à ce sujet, sachant qu'il y avait environ une semaine qu'il y a les deux préfigurateurs qui ont fait des différentes consultations en Martinique, hein, des élus, ceux qui ont été chargés par Macron de travailler sur l'évolution institutionnelle et de faire des propositions dans 6 mois.
Tout à fait. Alors, le Parti progressiste martiniquais a adopté comme mot d'ordre l'autonomie pour la nation martiniquaise. Nous avons pendant longtemps été raillés. On nous a d'ailleurs souvent confondus avec d'autres revendications qui sont par exemple celles de l'indépendance. Et nous avons, alors j'ai moi-même d'ailleurs rédigé sur le progressiste en son temps un article qui indiquait que bien souvent on confondait indépendance qui, de mon point de vue, est une hérésie conceptuelle, c'est-à-dire un concept qui n'existe pas, ni dans la nature, ni dans l'espace, ni dans le temps. Nul n'est totalement indépendant. Ça n'existe pas. Par contre, il y a des superpuissances, oui. Il y a des gens qui, parce que superpuissance, donnent l'impression de ne pas dépendre de quoi que ce soit. Mais je rappelle aussi assez aisément que pour avoir fait mes études, tiens, comme en même temps que Marcelin Nadeau, le député du Nord à Saint-Martin-d'Hères, à Grenoble, dans la région de Grenoble, à l'époque même où il y avait Tchernobyl. On prétendait en France que le nuage s'était arrêté à la frontière de la Belgique et que il n'y avait pas de nuage sur le... Et moi, jeune étudiant à l'époque, comme tous les anti-yoguyanais, nous avions une association, nous étions relativement inquiets de cette affaire et nous savions très bien que ça n'avait pas de sens. Et bon, d'ailleurs... nous sommes dépendants, nous sommes sur la même petite planète, nous sommes dépendants les uns des autres, même pour l'air que l'on respire, puisque le sable du Sahara vient nous visiter et ne demande rien à personne. Bon, maintenant, on a eu tendance à faire croire que la notion d'autonomie, elle était bizarre, elle était hors sol, qu'elle ne voulait rien dire. Outre le fait que je dise l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. Nous sommes en capacité de dire aussi, et cela à la suite d'Aimé Césaire, que l'autonomie, ça devrait être la norme. Et tout le reste, l'exception. Tout le reste, c'est l'exception. C'est-à-dire que dans le cadre de la République française, nous sommes dans le cadre de la République française. Nous ne l'avons pas voulu, c'est l'histoire qui l'a voulu. Et c'est la France aussi qui l'a voulu, qui l'a cherché, qui l'a organisé, qui l'a structuré. Eh bien, dans le cadre de la République française, l'autonomie devrait être la norme. Nous savons que le jacobinisme historique de la France fait que tout doit sortir de Paris, il y a un gouvernement et qu'il n'y a qu'à exécuter dans les territoires. Nous ne sommes pas d'accord. Nous considérons qu'il est beaucoup plus pertinent, et nous sommes un microcosme, Martinique, Guadeloupe, Guyane, ce qu'ils appellent les Outre-mer. Nous sommes des microcosmes pertinents pour pouvoir faire la démonstration du fait que la gestion de tout ce qui peut l'être au plus près des territoires est beaucoup plus pertinente, elle est beaucoup plus efficace. Elle est beaucoup plus en capacité de répondre aux aspirations et aux besoins réels. Bien, c'est ça le travail que qu'Aimé Césaire a engagé quand il a adopté ce mot d'ordre comme étant l'essentiel de sa vision et de sa mission en politique, c'est de dire que le Martiniquais doit être celui qui gère au plus près. Pourquoi ? Ben parce que c'est lui qui connaît les contraintes. C'est lui qui connaît les urgences à tout instant. C'est lui qui est en capacité. Alors, on veut nous faire croire que nous ne sommes pas assez formés pour pouvoir diriger nos propres affaires. Et ça a été organisé, hein. On a voulu faire la démonstration à nos populations que, eh bien, maintenant, les Martiniquais ne savent pas gérer, etc. Aujourd'hui, vous avez 34 communes, vous en avez 33, 32 ou 31 qui sont en difficulté. Nous faisons la démonstration régulièrement, avec Didier Laguerre notamment, que ben, c'est un fait voulu. Lorsque les dotations, c'est-à-dire les accompagnements financiers que l'État donne aux collectivités en Outre-mer, comme ils disent, c'est bien moindre que ce qui est donné sur l'Hexagone pour des collectivités de même strate, de mêmes obligations. Et alors que nous avons du retard, nous venons en 1946, Aimé Césaire a été le porteur de la loi qu'il a intitulée de départementalisation, parce qu'en fait, les populations à l'époque réclamaient l'assimilation. C'est-à-dire qu'ils disaient, nous voulons être comme les Français. C'est-à-dire, en France, après la guerre, on a instauré la sécurité sociale. Un certain nombre de droits pour les ouvriers et pour les salariés, pour le petit peuple. Les Antillais et les Guyanais, les gens de l'outre-mer, comme ils disent, et ont réclamé d'être traités de la même façon après la guerre. Et donc, la loi de départementalisation a posé cela d'abord. Mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Et c'est encore compliqué. Aujourd'hui, il nous faut dépasser cette loi de départementalisation. Et donc, très clairement, comment dépasser ? Comment aller au-delà ? Comment arriver à nos solutions ? Le Parti progressiste martiniquais, depuis donc sa création quasiment, dit très clairement, nous avons besoin d'avoir le maximum de manettes, celles que nous pouvons avoir, et c'est ça le sens de l'autonomie. Alors, que nos concitoyens comprennent bien qu'ils sont familiers au principe d'autonomie. Contrairement à ce qu'on raconte, il ne faut pas que l'on raconte des histoires. Tout le monde sait ce que c'est que l'autonomie. C'est parce qu'on dit que c'est en politique que ça n'a plus de sens. Mais l'enfant qui va à l'école, la maîtresse, le système éducatif demande que l'enfant soit autonome au moment où on l'inscrit. Il a beau avoir 3 ans, s'il n'est pas propre, s'il ne sait pas manger tout seul, s'il ne sait pas faire un certain nombre de choses tout seul, on ne le prend pas à l'école. Même si aujourd'hui, on inscrit dès 2 ans. Mais on inscrit dans des classes spécifiques, avec des accompagnements supplémentaires, pour permettre à l'enfant de monter en autonomie. Et c'est cela, l'enfant qui n'est pas autonome, on sait ce que ça veut dire. Les parents travaillent à rendre l'enfant autonome. Mais nous-mêmes, quand nous devenons adultes, il y a des choses que nous faisons par nous-mêmes, parce que nous sommes en capacité de le faire. Et nos parents l'admettent. Et nous-mêmes, nous le comprenons. Nous rentrons en autonomie en fonction de notre capacité à maîtriser et à réaliser les choses qui nous sont nécessaires. L'autonomie, c'est cela. C'est la capacité que l'on a, et cela doit être reconnu par tous, à réaliser les travaux, les efforts et la gestion de ce qui nous est nécessaire. Et ça ne nous éloigne pas pour autant de nos parents. Et donc, il ne faut plus que nos concitoyens se laissent berner. La notion d'autonomie, elle est très claire. Maintenant, nous lui donnons aujourd'hui un certain nombre de déclinaisons. Et dans nos demandes d'aujourd'hui, il y a des choses qui sont précises.
Quand tu parles de demandes précises, juste une parenthèse, quand on regarde ce que la Corse, en tout cas que les élus corses demandent, même si ils ne sont pas encore 100% d'accord, parce qu'il y a notamment entre les indépendantistes et les autonomistes, même où ils semblent aller en tout cas vers une conciliation là, pour l'instant, la spécificité de la Corse serait inscrite dans la Constitution, c'est-à-dire à statut de résident, il est préféré le statut de résidence, c'est-à-dire conditionner l'accès à la propriété foncière à une durée déterminée sur l'île. Par exemple, la création d'adaptation des normes et de lois sur l'île serait facilitée, avec un certain garde-fou. Et puis, le texte, par contre, ne contient pas ce que demandent notamment beaucoup d'élus corses, la co-officialité de la langue corse, avec le français comme ce que nous nous demandons avec le créole, le gouvernement serait plus ou moins d'accord davantage avec des mesures pour développer, promouvoir la langue corse, etc.
Le gouvernement a déjà fait des choses comme ça, dire bon, on va enseigner le corse dans les écoles, etc.
Non, l'ensemble des langues, d'ailleurs.
L'ensemble des langues.
Des langues des régions, parce que toutes les régions de France demandent le breton, etc.
L'Europe a exigé
les
langues régionales.
Tout à fait, la France n'a jamais ratifié d'ailleurs ce traité.
L'Europe a demandé. Et donc, la France, qui est l'État, disons ça, l'État français, parce qu'on ne peut pas dire la France, puisque les Bretons sont sur la même ligne que nous, les Corses sont sur la même ligne que nous, et je demande aux Martiniquais d'observer que des Français, bien Français de France, sont sur les lignes que nous défendons. Alors donc, c'est que ce que nous défendons n'est pas, ne sont pas des choses inacceptables et imprononçables. Et donc, l'État peut faire des choses, mais il le fait toujours à la marge. Ce qui est important pour nous, comme je dis, nous sommes plus des territoires pertinents, des microcosmes pertinents. Lorsqu'il n'y a pas une co-officialité de la langue, c'est-à-dire lorsque le créole, on ne lui reconnaît pas un statut, il risque de disparaître. Il risque de disparaître et avec lui, notre culture, notre manière d'être, notre manière de concevoir. C'est bien simple. Nous avons des expressions créoles qui disent tout. Tout le monde savent que ces grands noms-là, ni de l'expression qui en détend trois mouvements, qui a fait une belle démonstration philosophique. Et ça a du sens. Lorsque l'on ne permet pas que la langue ait une existence officielle, on perd les éléments culturels portés par la langue. Et des expressions, il y en a, tout le monde peut réfléchir. Le patemointe qui a dit « pas prendre plaisir, moun, servir la peine nous », c'est difficilement traduisible en français, mais tout le monde va comprendre ça, ça veut dire. De ne pas prendre de charge qui soit trop lourde pour vous. Alors qu'en réalité, ceux qui en bénéficient, ce n'est pas vous. C'est une expression comme ça. Mais, chers amis, j'ai envie de vous demander, lancez-vous dans la recherche d'expressions qui sont le patrimoine de notre langue, le patrimoine de notre langue, et vous verrez que c'est notre manière d'être, c'est notre manière d'exister dans le monde. Et nous avons cet apport-là à faire au monde. Chaque idiome, chaque langue, chaque manière de s'exprimer apporte un plus au concert des nations et à l'humanité. Donc, sur cette question, voyez, on peut rentrer dans le détail sur chaque item, sur chaque élément, en l'expliquant. Je suis persuadé que nos populations le comprendraient. J'ai envie de dire que la question de l'autonomie, très souvent, nous l'avons traité parce que nous avions à en discuter avec l'État. Parce que lorsqu'on est un élu, on est aux manettes, on est à la recherche d'outils. Nous avons peut-être parfois un peu oublié de nous mettre en accord avec nos populations. Et c'est ce, avec Serge Letchimy, Didier Laguerre, Johnny Aja, que nous nous sommes promis de faire désormais, c'est d'aller à la rencontre des populations, avec le Parti progressiste, bien évidemment, et nos alliés, à chaque fois que de besoin, d'aller au-devant de nos populations pour leur expliquer le détail de ce que nous demandons et qu'ils comprennent l'intelligence de ce qui est demandé. Parce que, en fait, l'État joue avec nous, comme en Corse, comme en Bretagne, comme partout, et avec nous davantage, parce que c'est vrai que c'est nous qui allons le plus loin dans la définition. C'est Serge Letchimy qui va le plus loin dans la conceptualisation. Aujourd'hui, le concept est compris. D'ailleurs, il a été compris en Martinique par tous, puisque aujourd'hui, il n'y a plus que des autonomistes. D'où que je retourne, quel que soit le lieu où je regarde, il n'y a que des autonomistes. Tout le monde se dit autonomiste. Bon, maintenant, faut-il qu'ils aient bien saisi les principes.
On voit certains défracteurs, notamment certains défracteurs ou certaines personnes de la population qui ne comprennent pas, en tout cas qui écoutent ces défracteurs-là, qui disent que vous avez déjà des compétences, les élus ont déjà des compétences et qu'il faudrait qu'ils les exercent déjà à 100%, etc., qu'ils exercent ce pas correctement, tout ça. En tout cas, qu'ils font une certaine amalgame entre compétences et pouvoirs, notamment entre
eux. C'est ça. C'est ce qu'il faut expliquer aux gens. C'est ce qu'il faut expliquer aux gens. Expliquer aux gens comment, et je l'ai déjà peut-être pris ici comme exemple, comment est-ce que, oui, compétences transport, on a utilisé d'ailleurs les lois...
Les habilitations
pour créer ce qui nous était nécessaire. Je rappelle qu'avant Martinique Transport existait environ 33 autorités organisatrices de transport. En anti-territoire qu'on a, tout le monde en chef. Et quand on dit un monde chef, c'est i-chef. Je rappelle, pour que les gens comprennent bien, avant quand il y avait région et département, le département était en charge des ponts et la région en charge du financement des bateaux. Si le bateau financé n'était pas financé en tenant compte de la hauteur des ponts, de la réglementation mise en œuvre pour la construction des ponts, eh bien on arrive à des catastrophes. Et ce sont des choses concrètes. Hein. Et y a l'autonomie des collectivités. Quand je dis chaque moun chef, eh bien moun a décidé en fonction des règles qu'il mettait. Qui taille, quoi, et qui a opposé à lui. Donc, nous avons mis de la cohérence en créant Martinique Transport. Nous avons mis de la cohérence en mettant la collectivité territoriale. Ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que l'exercice que nous sommes en train de faire par nous-mêmes, parce que nous avons compris et que nous sommes volontaires et que nous voulons résoudre les problèmes, c'est pas un exercice que l'État approuve dans le trait de jeu. Quand je dis que nous définissons l'autonomie, nous sommes en train de mettre à mal le sacro-saint principe républicain et de l'État qui est un et indivisible. Alors que nous considérons que le droit à l'égalité, c'est-à-dire le fait d'être dans un même ensemble, n'interdit pas le droit à la différence, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses différemment tout en étant ensemble, tout en étant tous concernés par la nation française, par l'État français. Donc voilà les choses. Terminer l'exemple sur le transport, oui, nous avons créé Martinique Transport. Oui, nous avons la possibilité d'organiser le transport. Mais qu'est-ce que ça veut dire, organiser le transport ? Organiser le transport, ça veut dire qu'il faut être en capacité de financer le transport. Aujourd'hui, le transport est organisé en fonction, selon les règles françaises, en fonction du versement mobilité. Versement mobilité. Lorsque vous avez 87% des entreprises martiniquaises qui sont de petites entreprises de moins de 10 salariés, vous avez un versement mobilité qui va entre 35 et 40 millions d'euros. Là, votre transport vous coûte 200 millions d'euros. Le transport qui est là, tel qu'il est, 200 millions d'euros. 170 à 200 millions.
C'est ce que certaines personnes n'ont pas compris quand ils comparent. J'ai même vu des articles cette semaine qui disent plusieurs villes, par exemple Dunkerque, qui a mis le transport gratuit,
je vais expliquer,
etc.
Dunkerque,
pourquoi Martinique, on ne met pas le transport gratuit?
J'ai rencontré l'un des responsables, le responsable de la mobilité dans la région de Dunkerque, qui est une métropole qui est riche du versement mobilité, qui est extrêmement riche dans la mesure où ils ont des entreprises de plus de 1000 salariés, et ça en centaines. Donc ils ont les poches à déborder. Oui, donc ils payent, non seulement ils payent mettre le transport là gratuit, mais ils payent investir encore, c'est-à-dire créer de nouvelles lignes, acheter des bus, avec rien que le versement mobilité. Donc, il n'y a pas beaucoup de villes ou de métropoles en France qui soient en capacité de faire ça. Ouais. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Mais ici, nous avons un gros problème. C'est-à-dire que nous avons des entreprises dont la grande majorité ne sont pas concernées par le versement mobilité. Ce n'est pas qu'on demande qu'ils soient concernés, mais c'est qu'on dit qu'on a un problème. Donc, de deux choses l'une. Soit les populations sont en capacité de comprendre là où se situe le problème et que les élus sont à la recherche des solutions. Il y a des solutions. Mmh. Il faut qu'on mette sur la table la question du financement de la mobilité. Aller voir à faire autrement. Même demander à l'État d'accompagner un certain nombre d'investissements qui sont faits, de créer des outils spécifiques. Parce qu'entre nous, nous avons oublié d'être idiots. Nous avons totalement oublié ça. Quand nous allons à Paris, en ce moment, nous voyons qu'au motif de la création de... au motif de la création des Jeux Olympiques, l'État français investit à Paris. Ce n'est pas la ville de Paris ni le Grand Paris qui investit seul. L'État y contribue. En Martinique, ce n'est pas forcément le cas.
D'ailleurs, ils avaient annoncé, quand on parle de transport gratuit, en tout cas, ils avaient annoncé le transport gratuit durant les Jeux Olympiques. Et entre-temps, on a appris que le ticket va coûter en plus chiant qu'en temps normal.
Tout à fait, quand en temps normal. Donc, c'est pas quelque chose de simple. Donc, ce que je viens d'expliquer sur le transport, sur la mobilité, ça existe aussi sur la santé. Sur la santé, nous avons des établissements.
C'est l'ARS qui définit la politique de la santé en Martinique.
C'est l'ARS qui définit la... Voilà, et puis nous sommes...
Ça s'est vu d'ailleurs durant le Covid où les élus étaient prévenus, l'ARS faisait d'abord sa conférence de presse, informait un peu plus ou moins tout le monde, et après le lendemain faisait des réunions avec les élus d'ailleurs.
Tout à fait.
Ouais, donc nous les élus ont protesté d'ailleurs en disant qu'ils ne sont pas au courant.
C'est la compétence de l'État, sauf que les populations ne connaissent que les élus. On n'a jamais vu qui que ce soit aller interpeller, lorsque les problèmes arrivent, on va d'abord voir les maires. On va voir le président de la CTM, on considère que toute revendication doit aboutir à la CTM, et donc à un moment donné, il faut que nous soyons en capacité d'expliquer à nos populations et qu'ils comprennent que lorsque nous disons que nous avons besoin d'une domiciliation des compétences et des pouvoirs, c'est pour pouvoir résoudre les problèmes. Alors là où je veux rassurer les Martiniquais, c'est que nous, Parti progressiste martiniquais, il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires, nous sommes dans le droit fil d'Aimé Césaire. Le peuple est souverain. C'est-à-dire que toutes les négociations, toutes les discussions, de notre point de vue, doivent avoir lieu avant, y compris les discussions avec le Parlement français. Tout cela doit avoir lieu avant, et c'est le peuple martiniquais qui doit avoir l'ultime recours, qui doit avoir la décision. C'est-à-dire qu'une fois que les choses sont ficelées, à ce moment-là, on consulte le peuple et ce n'est qu'à ce moment que les choses doivent se mettre. L'autonomie, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quand même le respect de la démocratie. Alors, bien sûr, on peut nous donner des compétences, on peut nous donner des pouvoirs, l'État peut décider de ce qu'il nous donne, etc. Mais être dans le cadre de l'autonomie, de notre point de vue, c'est la décision du peuple. C'est pas la décision des élus, c'est sur proposition des élus, la décision du peuple qui vient sanctionner une manière de résoudre les problèmes. Et c'est pour ça que l'autonomie, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui peut évoluer. Aujourd'hui, en fonction de ce qui a été négocié, en fonction de ce que le peuple a autorisé, en fonction de ce sur lequel le peuple est d'accord, on va pratiquer telle chose. Et demain, on va pratiquer encore autre chose parce que la vie évolue et que l'autonomie, c'est toujours ça. Ça a toujours été quelque chose d'évolutif.
Tu as parlé que vous êtes dans la lignée, bien sûr, du combat qu'a mené Aimé Césaire, tout ça. Je veux juste reprendre un extrême, parce que, bien sûr, tu l'as rappelé d'ailleurs au début, on arrive bientôt dans le mois de la départementalisation. C'était le 19 mars 1946. Oui. Césaire, lors d'une interview du 12 avril 1994, au journal Le Monde, que j'ai trouvé, disait que quoi ? Concernant la départementalisation, chaque application de la loi a été un combat presque humiliant pour lui. La France était extrêmement réticente et j'ai un peu l'impression que nous avons fait un marché de dupes. J'ai pris acte de la départementalisation et un beau jour, j'ai dit « Merde, on va dire ça comme ça, c'est ce qu'il a dit ». Ça veut dire qu'il a vu les limites de la départementalisation, ce que tu étais en train d'expliquer, et qu'il faut aller vers un pouvoir autonome.
Et Césaire dit aussi un pas, un autre pas, encore un autre pas et tenir gagner chaque pas. Nous estimons que Césaire a été un visionnaire. C'est quelqu'un qui a embrassé la cause de son peuple. Et donc, il a effectivement, à un moment donné, été le porteur de la loi de départementalisation. C'est un néologisme qu'il a créé, puisque le peuple disait « assimilation ». Et à juste raison, il disait, et de façon un peu perverse, nous les sazotnir. Ça qui bombazote, il bomba nous. Et donc, et c'était cela qu'il fallait garantir dans le cadre de la loi de départementalisation. Donc, l'égalité des droits. Sécurité sociale, bien sûr. Les droits sociaux, droits du travail, etc., etc. N'oublions pas qu'en 1945, nous sortions de la colonie. La loi a permis de sortir de la colonie. Avant la loi de départementalisation, nous étions une colonie. Et donc, nous sommes... Ça a été une forme de décolonisation, disons-le comme ça. Et assez tôt, Césaire a considéré qu'il fallait dépasser. Et nous sommes aujourd'hui à considérer qu'il faut aller à un dépassement de la loi de départementalisation. Et l'appel de Fort-de-France constitue cela. Il s'agit de parfaire à la fois le discours de Césaire, de poursuivre et de parfaire le discours de Césaire sur la question de la responsabilité autonome. Donc c'est une responsabilité qui doit être définie dans le cadre totalement démocratique et respectueux donc de la souveraineté du peuple. C'est en cela que je dis que le processus est extrêmement important. Il ne s'agit pas pour nous de simplement aller demander à l'État, donnez-nous les habilitations. C'est l'État qui vous donne. La capacité de modifier, c'est l'État qui vous donne. C'est l'État, en fait. Le Parlement, l'État, etc. C'est en fonction de ce que vous voulez modifier, si c'est un règlement ou une loi. Et donc, nous parlons de l'autonomie, c'est la capacité de rédiger la norme soi-même, de construire la norme soi-même, et de le faire donc dans les domaines dont on a la compétence et sur lesquels on peut assumer pleinement. C'est un processus. Et c'est en cela que nous sommes très différents de beaucoup de gens qui se disent autonomistes, parce qu'en fait, ils ont vu dans notre escarcelle qu'il y a tout plein de choses, mais qui sont finalement très, très bonnes. Sauf que nous sommes dans une démarche beaucoup plus, générique que d'aller chaque matin piocher et faire des négociations sans fin. Les gens ont bien constaté que, ne serait-ce que pour avoir les habilitations, ça a été quelque chose d'extraordinairement long. Il a fallu la LOUM. Il a fallu, après la LOUM, discuter. Pour au final qu'en 2010, Serge Letchimy utilise les lois d'habilitation pour créer à la fois trois lois en Martinique. L'une sur la formation professionnelle, l'une sur l'énergie et l'autre pour la création de Martinique Transport, pour résoudre le problème de... Voyez le nombre d'années qu'il a fallu pour pouvoir utiliser ça. Bon, derrière, c'est ça ce qu'on appelle la négociation sans fin. Mais pendant tout ce temps, on a perdu énormément de temps. Et on a perdu, si c'était des malades, c'est des chances de vie qui sont perdues. Donc voilà, c'est de ça. C'est pour ça qu'on parle, nous, quand on parle de l'autonomie, on parle d'un processus, d'une méthode, d'une manière et d'un cadre dans lequel on veut s'instaurer, qui puisse permettre de façon transversale de travailler sur des sujets qui concernent les Martiniquais et sur lesquels nous avons la compétence. Donc voilà.
Lauriane.
Alain, tu as parlé effectivement du sous-financement des collectivités territoriales des 10 Outre-mer. Bruno Le Maire a annoncé un plan d'austérité dû à la baisse des prévisions sur la croissance, donc avec 10 milliards d'euros d'économies. Donc le ministère aujourd'hui perd 78 millions d'euros. Comment, en tant qu'élu, vous allez pouvoir justement travailler sur ces sujets sociaux, développement économique au niveau des territoires locaux, hein, finalement, puisque avec cette perte annoncée, je ne vois pas comment on pourra anticiper justement ces sujets, travailler sur ces sujets.
Surtout hein, quand on parle des 78 millions d'euros de pertes que perdrait le ministère des Outre-mer, quand on regarde les différentes lignes de partage, c'est-à-dire le financement du logement social, l'accompagnement financier des collectivités, Lauriane l'a dit, et les dispositifs de continuité territoriale auxquels, quand on voit l'augmentation du prix des billets, que les Martiniquais ont du mal à se déplacer en ce moment.
Prenons le dispositif de continuité territoriale.
Via la DOM, c'est l'une des structures qu'utilise
le gouvernement.
Soyons clairs. La continuité territoriale, c'est quelque chose que l'État devrait avoir résolu. Là encore, c'est un droit. Soit nous sommes français, soit nous ne sommes pas français. Et donc, quand vous imaginez sur la continuité territoriale, regardez les situations. En Corse, on a pu gommer quasiment la distance. D'accord, c'est tout à côté de la
C'est 190 millions d'euros, il me semble, que met l'État.
Oui, que met l'État.
Et pour l'ensemble des Outre-mer, c'est 45 millions d'euros.
Voilà, c'est le quart. C'est le quart pour l'Outre-mer. Pour tout l'Outre-mer. Maintenant, c'est assez surprenant la façon dont l'État conçoit les choses. C'est à croire que nous n'existons pas, que nous n'avons pas d'intérêt, ou du moins que nous sommes, nous les embêtons. Alors, sur cette histoire de perte du ministère de l'Outre-mer, c'est inacceptable, c'est inacceptable. Voilà des territoires qui devraient bénéficier de beaucoup plus en termes d'accompagnement. On nous aura annoncé ce montant-là, en plus, que ce ne serait pas suffisant par rapport aux situations que nous vivons. Les situations qui sont de la responsabilité de l'État. La santé, par exemple, la sécurité. Je ne prends que ces deux-là. Santé et sécurité. La situation. On aime à nous dire que, à nous les élus locaux, que des pieds nous salent, hein, des talons nous nous la boue. Mais quand on regarde la responsabilité endossée par l'État, c'est pas bien réalisé dans nos pays. Alors, quand on voit comment la continuité territoriale est traitée par rapport à la Corse, traitée par rapport à la Guyane, vous vous rendez compte qu'en Guyane, par exemple, la collectivité guyanaise est obligée de prendre en charge elle-même, la continuité interne, les déplacements internes, alors que la Corse, c'est un cinquième de l'Hexagone, de la France hexagonale. Donc, on ne peut pas dire moins que l'État va carrément qu'il faudrait mettre l'emmène en ça, qu'il accompagne, qu'il structure, qu'il mette moyen en ça, ne serait-ce que déjà en Guyane. Mais en ce qui nous concerne Martinique, mais aussi Guadeloupe, regardez comment nous sommes. La vie est chère. Regardez comment nous avons des difficultés à nous soigner localement. Donc, quand il faut sortir, c'est quelque chose d'impossible. Quand il faut partir, c'est quelque chose d'impossible. Mais même pour venir, parce que nos jeunes qui partent et qui doivent revenir, la DOM, etc. Alors, bien sûr, la DOM aide. Mais le prix exonéreux des billets fait que rien n'est facile. Tout est rendu plus compliqué. Donc, alors que nous sommes des territoires, effectivement, qui ont des situations difficiles et qui devraient donc bénéficier de beaucoup plus d'accompagnement. Alors, quoi faire? C'est bien sûr, là aussi, d'être en discussion avec l'État et essayer d'inverser la tendance. Maintenant, les choses sont de plus en plus difficiles. Et après, on va vous dire, les élus locaux ne font pas. Vos élus ne savent pas faire. C'est comme si on nous mettait dans une situation impossible et puis on nous disait, vous ne savez pas faire, alors que on oublie de dire qu'on nous a mis dans une situation impossible. Et Didier Laguerre fait la démonstration très souvent, puisqu'il est le représentant de l'Outre-mer à la Commission nationale des finances des collectivités locales. D'ailleurs, le sénateur patient qui l'avait précédé à cette fonction avait fait un rapport dans lequel il était clair que l'État français sous-finançait les collectivités des Outre-mer. Et là, je rappelle que la Cour des comptes a fait le même constat. Donc, de grâce, ne venez pas dire que vos élus ne savent pas faire. Dites que vos élus ont du toupet de faire dans ces conditions-là. Dans les conditions dans lesquelles on nous met, c'est extrêmement difficile d'avancer. Mais nous allons avancer quand même parce que, dans les faits, il faut être responsable et ne pas démissionner parce que la tâche est difficile, mais se battre bec et ongles, ne jamais abandonner. Comme disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne les fait pas, c'est aussi parce qu'on ne les fait pas qu'elles sont difficiles. Donc, tôt ou tard, nous obtiendrons ce que nous souhaitons. Nous allons affûter nos arguments et nous allons les rendre de plus en plus incontournables. C'est comme pour ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale au sujet du chlordécone. C'est en affûtant les arguments qu'à un moment donné, la partie adverse est obligée de battre en retraite parce qu'il n'a plus rien à dire. Jusqu'à présent, on nous a trop raconté que nos élus locaux n'étaient pas capables et il nous faut faire la démonstration que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il nous faut faire la démonstration que ce que nous proposons est pertinent pour nos populations et que nos populations doivent elles-mêmes le comprendre pour que les gens qui viennent passer trois ans ici ne viennent pas leur raconter que nous sommes des imbéciles ici. Nous avons fait leurs grandes écoles.
Alain, tu as parlé de transport. Je voulais juste revenir sur une petite partie parce que c'est important quand même pour l'ensemble des usagers parce qu'on entend beaucoup de personnes se plaindre au quotidien. Notamment, je voulais parler du transport terrestre. Oui. On sait que cette semaine, Martinique Transport a commencé à travailler à ouvrir ses plis concernant le renouvellement de la délégation de services publics. Oui. Ce qu'on sait en gros, c'est-à-dire que ces délégations seront notamment plus courtes, ce qui permettra un renouvellement de la flotte plus souvent et qu'on n'arrive pas à ce qu'on trouve actuellement avec beaucoup de bus, entre guillemets, qui sont en panne parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont sur le réseau et que leur détérioration s'accélère. En tout cas, par rapport à la route et à notre situation géographique, entre autres, notamment.
Tout à fait. Alors, ce qui est clair, c'est que je crois que Martinique Transport a compris que les entreprises du transport...
Rappelons que c'est une situation héritée,
Oui, c'est une situation héritée et les entreprises du transport terrestre notamment sont fragiles. Elles ont des fragilités qui fait que même quand une délégation est de longue durée, les investissements sont compliqués. Donc ça signifie qu'il y a des mécanismes qui sont mise en place de sorte à pouvoir absorber. Parce que c'est vrai que c'est un peu antinomique. En général, une délégation longue permet des investissements et il est évident que les entreprises ont une fragilité du départ, que la délégation soit longue, qu'elles soient courtes, elles ne seront pas nécessairement en capacité de répondre à cette obligation parce qu'il faut renouveler les flottes. Dans le transport, c'est un gage de sécurité, c'est un gage aussi de bon fonctionnement. Des bus souvent en panne font que le service ne peut pas être réalisé. Donc, Je crois que dans cette affaire, ce qu'il y a à comprendre, c'est que Martinique Transport a saisi qu'il lui faut engager les choses de sorte à ce que, à accompagner cette question du renouvellement des bus pour que les choses se fassent correctement. Il ne peut pas en être autrement. Les entreprises locales sont dans une fragilité particulière. C'est très clair. Maintenant, c'est comme tout ce que je viens de décliner tout à l'heure. C'est notre responsabilité d'élus martiniquais que d'accompagner la constitution d'un tissu et faire en sorte que les choses se passent au mieux dans l'intérêt des Martiniquais, à la fois usagers, mais aussi les salariés et les chefs d'entreprise. C'est extrêmement important. Donc,
tu l'as rappelé tout à l'heure, là, qu'il y a un effort financier très important qui est fait des collectivités pour venir compenser le fait que le versement transport est très faible du fait de nos tissus, de nos entreprises ici. Mais parallèlement à ça, se rajoute aussi le fait, parlons-en clairement, que beaucoup de personnes prennent le bus mais ne payent pas.
Alors là, ça...
Quand on sait que le ticket coûte 1,45€...
Les gens doivent comprendre la responsabilité. Nous avons chacun une responsabilité à ce qui nous arrive. Nous avons, je l'ai dit, un versement mobilité qui est faible. Là où tout le monde rêve de l'organisation d'un transport qui existe dans une région où le versement mobilité est très fort. Nous avons, par contre, l'usager qui paye une modique somme par rapport au coût du transport. Il faut bien que les gens comprennent que, en fait, ils ne payent qu'environ 40% du coût du transport. Bien souvent, les collectivités assument 60% du coût. Et donc, la responsabilité de l'usager, c'est de participer à ce dont il bénéficie. C'est surtout ça qu'il faut qu'il comprenne. Parce qu'en réalité, bien souvent, nous avons, et ça, dans le territoire du centre, c'est très clair, mais dans le sud aussi, nous avons des gens qui pensent que, bagaille là, c'est à tout le monde. J'ai même entendu des gens dire, mais c'est la CTM Jacques a payé. La CTM, c'est l'agent d'impôt de nous. Mais la CTM qui a payé pour les écoles, collèges, lycées, la CTM qui a payé pour les routes, la CTM, c'est même l'agent qui a servi pour toute bagaille. Et donc, à s'appuyer sur la CTM en permanence ou sur les collectivités en permanence, c'est dégrader et ramener la situation à une situation de difficulté que l'on paye tous à terme. C'est-à-dire, à partir du moment où on n'a pas consolidé les bases, après, on n'a que les yeux pour pleurer. Les gens même qui disent qu'il n'y a pas de transport, ce sont parfois eux-mêmes, ces gens-là, qui font en sorte que le transport ne soit pas organisé, structuré. Oui, parce qu'il faut payer ce que l'on utilise pour le transport, le bus, l'essence, etc., etc. Et puis derrière, ne pas oublier que c'est Moun qui vive dit ça. Alors, sans compter qu'il m'appartient aussi de dire que chacun des acteurs doit être très sérieux dans ce qu'il fait. Chacun des acteurs, je veux dire aussi les salariés, les chefs d'entreprise, chaque acteur doit faire attention à son intervention, son niveau d'intervention.
Merci Alain, merci pour tous ces sujets. Hein. En tout cas, on arrive au terme de cette émission, mais en tout cas, je souhaite quand même parler de ce programme d'action qui a été mis en place par la ville de Fort-de-France à l'occasion justement de cette journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Et la ville de Fort-de-France a préparé un programme d'action sur le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Donc avec plusieurs activités, hein, des ateliers de réflexion, une conférence débat sur l'exploitation sexuelle, donc avec le mouvement d'UNI, que vous retrouvez le 4 mars, des différents espaces d'échange, de rencontres avec des associations, mais aussi des collectes pour les femmes SDF, donc de tout ce qui est produits d'hygiène. Donc n'hésitez pas à retrouver ce programme sur le site internet de la ville et les différents outils de communication de la ville de Fort-de-France.
Tout à fait.
En tout cas, c'est important, durant ce mois de mars, c'est le mois des droits des femmes. En tout cas, on voit que la ville de Fort-de-France, mais aussi d'ailleurs le Parti progressiste, qui a toujours mis beaucoup de femmes en avant, et avec la parité, ne serait-ce qu'au sein du comité national,
absolument,
par exemple. Et vas-y, je te laisse, parce que
oui, au sein du parti, nous avons très tôt intégré ça, alors qu'il n'y a pas d'obligation.
Il n'y avait pas d'obligation.
Il n'y a pas d'obligation jusqu'à présent. Mais nous avons très tôt intégré cette notion de parité. Le comité national est construit à partir de listes présentées à parité. Et nous avons effectivement un regard particulier. Il est important de conforter les femmes dans la société. Certaines personnes ne saisissent pas très bien et il nous appartient de leur dire qu'il est extrêmement important de renforcer les femmes dans leur capacité à faire, dans leur capacité à évoluer dans la société, d'abord parce qu'elles sont la moitié de l'humanité, mais aussi parce que l'absence des femmes dans ce que nous faisons, c'est l'absence d'un regard particulier, c'est l'absence d'une préoccupation particulière, c'est l'absence de certaines attentions. Et je m'en suis rendu compte encore lors des dernières élections au sein du Parti progressiste martiniquais, m'est revenue une préoccupation particulière que je n'aurais jamais pu concevoir, parce que je suis un homme, je n'ai pas ce regard-là nécessairement. Et les femmes nous apportent un regard particulier, une force particulière. Le monde est fait pour marcher sur ses deux jambes, celle des hommes, celui des femmes. Les femmes constituent un pilier, comme les hommes, et c'est ensemble. D'ailleurs, la vie est construite comme ça. Nous ne sommes pas complets si nous ne sommes pas accompagnés des femmes, soyons clairs. Donc, il est important que... Parce qu'il y avait des difficultés, il faut le reconnaître. Et il y en a encore d'autres. Au niveau des salaires, on n'en est pas à égalité, à valeur égale, à savoir égal, à implication même supérieure. Les femmes ne sont pas rémunérées. C'est quand même... il faut que les hommes ouvrent leurs yeux partout où ils sont pour déceler ces situations-là et veiller à ce que... Sans compter que, bon, quand on fait les statistiques... les femmes sont bien souvent en famille monoparentale, c'est-à-dire responsabilité familiale, charge familiale. Les femmes sont encore toutes seules, souvent seules à pratiquer. Il vaudrait mieux qu'elles soient accompagnées. Bon, maintenant, lorsque ce n'est pas le cas, il faut que la société compense, que la société accompagne. Donc c'est important.
En tout cas, merci Alain d'avoir pris le temps de venir durant cette émission. Tu reviendras davantage bientôt pour venir nous parler bien de l'organisation que tu as mis
tout
en place
fait.
Au sein du parti avec
oui.
les différentes commissions, etc.
Opérationnel.
Nous expliquer tout ça
oui.
là. Et notamment nous parler des nouveaux balisés. D'ailleurs, ici, nous sommes au François. Le François, il y a eu un renouvellement au sein du balisé du François
tout
avec
fait.
Un nouveau président.
Oui.
Nous les ferons venir ici pour qu'ils puissent
se présenter
bientôt. On va organiser ça.
Tout à fait.
En tout cas, toi qui parlais des femmes, nous remercions Dominique de permettre à l'ensemble
oui,
de nos auditeurs
de
pouvoir...
La femme du samedi et qui a les manettes.
Ah
hein,
oui.
Micro, hein, les
ah
deux,
oui,
et qui
ah
est souvent, souvent très patiente avec nous lorsqu'on déborde, ça nous arrive souvent, et des fois avec nos invités qui ont des fois beaucoup de retard, donc il fait qu'on déborde vraiment, surtout Lauriane, pas de nom, en tout cas remercie à Lauriane, merci à l'ensemble des auditeurs, nous vous souhaitons un bon week-end, soyez prudents, et puis rendez-vous la semaine prochaine à la même heure,
merci
encore
à
et à
tous,
bientôt. Ouais.
Merci à aux auditeurs de Radio Sud-Est. Merci à vous deux qui faites un travail remarquable et qui permet aux populations, au-delà des personnes militantes et des politiques, de comprendre Et c'est pour ça que j'essaye de faire l'effort de pédagogie. Et je rentre un peu au fond des choses.
Merci. Bon, un petit mot d'excuse à ceux qui nous suivaient sur Internet. On a eu plusieurs difficultés. Aujourd'hui, le réseau est un petit peu compliqué dans le secteur. Mais bon, en tout cas, on essaie de faire au mieux pour faire que ceux qui nous suivaient sur le live Facebook ont pu suivre avec des difficultés. Mais on s'excuse à ce niveau-là. C'est pas de notre faute. Et on a des soucis de réseau aujourd'hui. Merci et à bientôt.
Retrouvez tous les samedis l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
En Martinique.
Le son des Antilles.
Le son des Antilles. Radio Sud-Est.